J'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est à la fois vraiment un sujet de philosophie, hein, c'est un sujet qui est au cœur de la philosophie morale, la notion de respect. Il y a sûrement un philosophe dont vous avez entendu parler sur ce sujet, c'est le grand philosophe allemand Emmanuel Kant. Et en même temps, c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations, puisque aujourd'hui, on entend parler à tout bout de champ de respect, tout le monde demande le respect. Et même, on pourrait imaginer, je crois que c'est le cas un petit peu sur ce t-shirt, que le respect, ça peut même devenir une marque, hein, une marque de... marque de mode, on affiche respect et on généralise ça. Alors je vais essayer de vous parler de ça, je vous préviens tout de suite qu'il faudra que vous fassiez attention, c'est pas particulièrement difficile, mais je vais faire appel à des distinctions qui sont des distinctions d'abord de ce qu'on ressent et puis des distinctions aussi de langage. Et il faudra faire attention aux mots et aux termes. Il y a une grande partie de la philosophie qui consiste pas à parler directement des choses, mais à parler de la manière dont nous parlons des choses. Et à travers les distinctions fines du langage, que tout le monde a, hein, y compris quand on parle un petit peu en argot ou quand on parle, disons, de manière courante, tout le monde a des distinctions très fines dans le langage. Et là, je vais faire appel à des distinctions un petit peu fines sur ces questions-là. Bon, je me mets d'un support parce que c'est plus facile que de prendre des notes et d'une certaine manière c'est aussi un peu plus vivant. Mais j'aurai peu d'images parce que évidemment sur des choses comme le respect, sur des choses qui sur des sentiments ou sur des attitudes qui sont assez abstraites, il est difficile d'avoir des images. Mais j'en aurai quand même une pour vous, mais j'aurai surtout des diapositives à lire et que je vais abondamment vous commenter. Alors je commencerai par une première distinction, une distinction de départ. On est obligé de la faire, sinon on ne s'y retrouve pas, hein, quand on ne fait pas ces distinctions. C'est que le respect, c'est d'abord un mode de comportement. C'est-à-dire, je respecte l'interdiction de fumer, ça veut dire je ne fume pas dans les locaux. Ou bien je fume à l'extérieur du bâtiment. Vous avez sûrement vu dans les rues des gens qui quittent leur bureau et qui vont fumer dans la rue. Ils respectent l'interdiction de fumer. Quand vous faites du sport, vous respectez certaines règles. Quelquefois, vous trichez. Hein, je veux dire, mais fondamentalement, on ne triche pas tout le temps. Hein. Imaginez que vous alliez... Je prends un exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé le foot. Je prends un ailier qui passerait toujours en touche. On lui dirait ça va pas, hein. Je veux dire c'est pas le jeu. Je veux dire s'il y a une aile et s'il y a une ligne de touche, c'est pour que tu passes à l'intérieur et pas à l'extérieur. Hein. Donc ça c'est respecter la ligne de touche. On dit aussi quelquefois, vous avez vu surtout par exemple pour des enfants, des enfants qui sont un petit peu actifs et violents, ils respectent rien, ils cassent tout, il a pas de soins, ils respectent rien. Ça c'est donc le respect comme mode de comportement. Et puis il y a le respect comme ce qu'on ressent, le vécu, ce que j'appelle le vécu, l'attitude mentale, psychologique, le sentiment. Alors ça c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Donc vous éprouvez, si ça se trouve, du respect pour votre grand-père. C'est-à-dire, souvent d'ailleurs, on éprouve encore plus de respect pour les grands-parents que pour les parents, parce qu'on est moins en conflit directement avec eux. Bon, vous pouvez avoir du respect pour les lieux de religion. On ne rentre pas comme dans un moulin, dans un lieu de religion. Bon, moi je suis de formation chrétienne. Et donc j'ai eu une éducation religieuse. Maintenant, je ne suis pas croyant, mais je visite beaucoup les églises parce que je m'intéresse à l'art. Quand je visite une église, j'essaye à peu près de ne pas être trop bruyant, de bien me comporter et de ne pas troubler les activités des quelques fidèles qui sont là. Ça s'appelle éprouver du respect pour le lieu de religion. Il y a aussi quelquefois, bon, c'est pas très habituel en France, ça se fait pas beaucoup, mais ça se fait beaucoup en Italie, ça se fait beaucoup en Espagne, dans la campagne, aux endroits où il y a des accidents de la route, les gens mettent des petites croix, des petits bouquets de fleurs, des petits mausolées pour des gens qu'ils ont connus. Bon, ben, ça veut dire avoir du respect pour un lieu, hein, parce que ce n'est pas n'importe quel lieu, il y est arrivé quelque chose de grave et on se sent un peu impressionné, un peu plus attentif, on ressent quelque chose. Alors ça, c'est la distinction de départ. Disons, le comportement, le respect, respecter, et puis de l'autre côté, le vécu, le sentiment. Alors, maintenant, je passe au comportement, ce que j'appelle les conduites. Quand vous respectez, respectez en termes de conduite, eh bien, en fait, vous respectez des interdictions. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, le code de la route, hein, interdit de dépasser. Si vous êtes respectueux du code de la route, vous respectez cette interdiction. Il y a un panneau interdit de dépasser. Vous respectez aussi, mais il n'y a pas que des interdictions. J'ai pris l'exemple du foot tout à l'heure. Si vous respectez des règles, ce n'est pas des interdictions, mais disons, vous respectez la règle pour pouvoir jouer. Si vous respectiez jamais rien comme règle quand vous jouez au foot ou au basket, vous ne pourriez plus jouer au foot ou au basket. Ça serait peut-être autre chose, ça serait peut-être une bagarre, ça serait peut-être un carnaval, mais ça ne serait plus du foot ou du basket. Vous respectez aussi, au niveau des comportements, bon, ce n'est pas encore à votre âge, vous n'êtes pas trop malade, mais quand vous allez chez le médecin et puis qu'il vous donne un médicament, il vous donne une prescription. Et il vous dit, vous prendrez un comprimé le matin à jeun, un autre comprimé avant le repas, et un troisième, etc. Vous respectez la prescription. Hein, vous pouvez très bien les manger tous d'un coup, hein, mais vous ne respecterez pas la prescription. Il y a des chances que le médicament ne fasse pas vraiment son effet. Et puis, vous respectez aussi ce qu'on appelle des normes. Ici, par exemple, je vous donne un exemple qui est très simple. Je suis sûr que quand on a construit cette salle de conférence, les architectes, les autorités du lycée, les gens qui ont les conducteurs de travaux ont respecté des normes de sécurité. Normes de sécurité, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça s'effondre après 10 minutes d'incendie, il faut que les portes, il y ait ce qu'on appelle au moins deux unités de passage, c'est-à-dire que deux personnes puissent passer la porte en même temps. Ça, c'est des normes. Donc ça aussi, vous les respectez. Ça, c'est... Alors, bien évidemment, si vous revenez à ma première distinction, quand vous respectez quelque chose au niveau des conduites, vous n'avez pas forcément un sentiment de respect. Hein. Vous obéissez. Quelquefois, ça peut arriver que vous ayez aussi un sentiment de respect, mais vous obéissez tout bêtement, hein, vous respectez la chose. Alors, ce que j'ai mis de l'autre côté, c'est que votre respect peut avoir plusieurs raisons, hein, dans vos conduites. Vous pouvez respecter par crainte. Vous avez peur d'avoir une amende, vous avez peur du contrôleur, vous avez peur du type qui est beaucoup plus gros que vous, hein, il est plus fort que moi, je ne veux pas d'amende, je ne veux pas d'ennui. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle respecter des règles, des interdictions, parce que par crainte. On peut aussi respecter, et ça, on le fait beaucoup plus souvent qu'on pense, simplement par habitude. On a l'habitude de faire de cette manière et on ne se pose pas de questions. Hein, j'ai toujours fait comme ça, donc je respecte, par exemple, les heures de dépôt des ordures, hein, parce qu'on m'a dit qu'il fallait les déposer entre telle heure et telle heure. Bon, ben, j'ai l'habitude, c'est comme ça, je respecte sans y penser. Je peux aussi respecter parce que ça m'arrange, par utilité. Si je veux jouer au foot, je vais respecter les règles. Et puis, je peux aussi parfois respecter, tout simplement, parce que j'ai du respect. Alors là, cette fois-ci, au sens du sentiment de respect. Alors, maintenant, je vais vous parler du sentiment. Je laisse de côté les conduites, hein, et je vous parle des sentiments. Alors, ça, c'est une notion qui est très présente en philosophie, mais avec laquelle on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Parce que un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein, c'est peut être de l'amour, ça peut être de la haine, ça peut être de l'envie, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la tristesse. C'est tout ce qu'on ressent. Hein. Alors normalement, je veux dire, il y a une chose qui est sûre quand on parle de sentiment, c'est on peut pas sentir un sentiment qu'on n'a pas. On peut faire semblant. Hein, et les comédiens. Le comédien, il n'est pas particulièrement désespéré, quelquefois, quand il joue un rôle désespéré, mais il fait semblant d'avoir un sentiment de désespoir. Mais en gros, en fait, si vous y réfléchissez en votre fort intérieur, vous n'arriverez pas, si vous réfléchissez vraiment vous-même par vous-même, vous n'arriverez jamais à éprouver un sentiment que vous n'éprouvez pas. Ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais, et ça, c'est très important, je dirais, et à la fois aujourd'hui et par rapport à vous, les jeunes générations, c'est qu'il arrive qu'on ne sache pas très bien quel sentiment on a. On ne sait pas très bien si, si on éprouve, par exemple, de la haine ou simplement une très forte jalousie ou simplement un petit peu de colère, tout simplement, passagère. On ne sait pas toujours trop bien quel sentiment on a. Et alors là, ben, je dirais qu'il faut, il faut s'interroger, il faut se renseigner, comme je mets, il faut analyser, il faut lire aussi. Parce que les sentiments, c'est quelque chose qui est très, très fragile et très subtil. Donc, toute notre culture consiste à nommer nos sentiments, à apprendre à les nommer et comme ça aussi à mieux les sentir. Il y a une chose, vous en avez entendu parler ou pas entendu parler, mais au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les philosophes faisaient beaucoup de ce qu'on appelait des traités des passions. Où on définissait qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la haine, qu'est-ce que c'est que la jalousie, qu'est-ce que c'est que la tristesse. Et c'était aussi des manières, comme dans la littérature de l'époque, d'affiner les sentiments, de permettre aux gens d'être moins, moins tout ou rien, quoi, en quelque sorte. Bon, je sens que je suis en colère et vindicatif, mais pas plus, j'analyse pas plus mes sentiments. Donc il y a tout un apprentissage des sentiments qui se fait dans la culture, qui se fait avec la relation à autrui, qui se fait dans la littérature, qui se fait aussi dans la relation avec autrui, je dirais pas seulement en aimant quelqu'un ou en le détestant, mais aussi en discutant avec quelqu'un, hein, affiner ses sentiments, en allant au cinéma aussi, vous apprenez aussi la grammaire des sentiments. Et par exemple, quand vous éprouvez du respect en tant que sentiment, c'est pas toujours facile de savoir si vous avez, par exemple, de la peur, vraiment, ou du respect. Moi, quand je réfléchis, par exemple, à moi, quand j'étais adolescent, si vous voulez, aux relations que j'avais avec des professeurs, il y avait certains professeurs pour lesquels j'avais vraiment profondément du respect parce qu'ils étaient des puits de science, parce qu'ils étaient extrêmement accessibles, parce que, etc., etc. Il y en avait d'autres aussi que je respectais pour ces raisons-là, mais qui, en plus, m'impressionnaient. Hein, il me faisait peur, je les craignais un peu. C'est-à-dire, donc, il y a tout ce mélange-là dans les sentiments et il faut apprendre à essayer d'y voir un peu plus clair et discerner ça. Est-ce que, il y a des formes de respect qui sont aussi de l'indifférence. C'est-à-dire, on ne fait pas attention finalement, on ne regarde pas les gens, donc ils imaginent qu'on les respecte, mais simplement, on a autre chose à faire, on n'y pense pas et on ne fait pas attention. Alors, l'irrespect, j'aurais voulu vous montrer de vraies images de l'irrespect et j'ai essayé de vous télécharger sur ma présentation une image d'un discours du président Bush. C'est pas parce que c'est Bush qui c'était intéressant, mais c'est une image assez fameuse. Mais vous pouvez peut-être, si vous allez sur Internet, sur YouTube, sur des choses comme ça, si vous voulez, vous cherchez Bush en dormant. Bush qui endort quelqu'un, Bush endormant. C'est une petite séquence très drôle de télévision américaine où Bush fait un discours, alors il est tout content, c'est plein de gens importants, puis derrière il y a un adolescent, un peu plus jeune que vous. Et vous l'avez vu peut-être, non? Et il bâille comme c'est pas possible, il manque s'endormir, il fait des mouvements des vertèbres pour essayer de se réveiller, il s'accroupit à un moment. Et puis à la fin, comme tout le monde, il applaudit. Alors moi, j'ai cru pendant longtemps que c'était une bande qui était trafiquée, mais pas du tout. C'était vraiment un gamin qu'on avait mis là et qui s'ennuyait à mourir et qui, pendant que... Alors là, c'était vraiment l'irrespect à l'état pur, mais l'irrespect, je dirais, par indifférence. Il n'en voulait pas particulièrement à Bush. Il s'ennuyait comme un rat mort et il s'endormait littéralement. Et ce qui est drôle, c'est qu'on l'a retrouvé 2-3 ans plus tard. Maintenant, il est quasiment quelqu'un d'adulte. Et il a re-raconté l'histoire. Effectivement, il mourait d'ennui, de sommeil. Mais ça, c'était une bonne image de respect. Celle que je vous ai choisie est pas mal parce qu'elle a un double sens. Elle a un double sens, parce que comme vous voyez, d'abord, c'est l'irrespect au sens tout simplement que le type qui a déposé ses poubelles là-dessus, sur l'emplacement du handicapé, il a tout simplement pas respecté l'interdiction. Normalement, s'il y a un emplacement de handicapé, vous ne devez pas y stationner, vous ne devez pas l'encombrer, vous ne devez pas y déposer quelque chose. Donc ça, c'est le premier sens, si vous voulez, c'est ne pas respecter l'interdiction. Mais le second sens, qui est plus subtil, c'est qu'en même temps, c'est de l'irrespect, je dirais en termes de sentiments, puisque ça consiste à mépriser le handicap. Et je dirais que si vous avez l'esprit encore plus tordu, en quelque sorte, ou aigu, vous direz, eh ben, c'est sympathique, c'est mépriser le handicap, mais en plus, en y mettant les poubelles. C'est-à-dire, au fond, ça revient à considérer les handicapés comme des trucs pour la poubelle. Hein, bon, je force un peu l'interprétation, mais elle est quand même là. Hein. Donc, si vous voulez, c'était une forme d'irrespect qui touche les deux. Alors, j'en viens maintenant plus à essayer de l'analyser, le sentiment de respect. Alors, sentiment de respect, c'est une émotion. C'est quelque chose qui nous fait avoir une attitude envers quelqu'un ou envers quelque chose. Parce que vous pouvez respecter un très bel espace naturel, vous pouvez respecter un très beau monument, vous pouvez avoir un sentiment de respect. Vous arrivez dans un endroit absolument sublime et vous vous dites, bon, bah, je ressens quelque chose et je ne peux pas me conduire n'importe comment dans cet endroit sublime. Donc c'est une émotion, c'est un ressenti, mais qui détermine une certaine attitude. Donc ça va se traduire dans le comportement. Hein, par exemple, vous n'allez pas être débraillé, vous n'allez pas crier trop fort, vous n'allez pas vous bousculer, vous n'allez pas jouer, vous mettre à jouer, etc. Bon, alors, c'est quoi cette attitude du respect ? Alors là, je crois que tous les gens qui analysent le respect disent la même chose. Ça consiste, c'est dans la colonne de gauche, là, ça consiste à ne pas traiter par-dessous la jambe, faire attention, hein, faire attention, avoir des égards, ne pas rudoyer. Quand vous respectez une personne, vous ne la rudoyez pas. C'est attacher de la valeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est exactement le sens étymologique. C'est exactement le sens étymologique, je vous l'ai mis là. Respecter, ça vient du verbe latin respicere, qui n'est pas un sens très compliqué. Hein. Ça veut dire seulement regarder quelque chose une deuxième fois. Regarder quelque chose une deuxième fois. Ça veut dire s'arrêter sur, ça veut dire regarder mieux. Ça veut dire prêter une attention forte et voir autrement. Hein. Alors, j'avais pris cet exemple, vous voyez, vous êtes jeune, hein, et on est un peu comme ça, vous voyez quelqu'un qui marche lentement, qui zigzague un peu dans la rue, vous dites, bon, c'est un vieux. Hein, et puis, vous réfléchissez. Bon, c'est un être humain, il est comme moi, il est vulnérable, vous y regardez à deux fois. Et votre première réaction, c'est de dire, bon, bah, c'est juste quelqu'un qui est vieux. Le respect, ça veut dire, j'y regarde à deux fois. C'est-à-dire, je me mets à réfléchir, au fond, c'est qui vraiment cette personne âgée ? Ben, cette personne âgée, c'est une personne comme moi. Elle a été comme moi, je serai probablement, si tout va bien, comme elle. C'est une personne qui est vulnérable, elle n'avance pas vite, elle ne se rend pas bien compte des choses, mais elle est comme moi, elle a de la vulnérabilité. Vous y regardez une deuxième fois, hein, à deux fois, respirez, et à ce moment-là, quand vous recommencez à mieux regarder, vous éprouvez, ben c'est ça le sentiment du respect. Alors, je prends maintenant des conséquences de la distinction. Je vous rappelais la distinction, je vous ai dit, entre la conduite respectée, en fait, respecter une interdiction, une obligation, une norme, etc., et puis avoir le sentiment de respect. Bien, au niveau du comportement, comme je vous ai dit, on peut respecter sans avoir le sentiment, ça c'est sûr. Hein, on respecte en général le code de la route sans éprouver un respect absolument ému pour les auteurs du code de la route. On s'en fout, hein, c'est quelque chose qui nous permet de circuler, point à la ligne, et on le respecte. Mais en revanche, du côté du sentiment, c'est vrai que si vous avez le sentiment, c'est difficile de ne pas avoir un comportement en rapport. C'est difficile de dire je vous respecte et puis brusquement de traiter le type d'imbécile, d'idiot, de lui hurler dessus. Ça veut rien dire. Hein. Ça, pensez-y, parce que dans les usages qu'on fait du respect, aujourd'hui, les gens revendiquent le respect, demandent le respect, en exigent, et puis en même temps, ils le font quelquefois de manière extrêmement brutale, et puis on leur répond, on dit « je vous respecte, mais vous m'emmerdez, excusez-moi », etc. Et dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Je veux dire, si vous avez le sentiment, vous pouvez pas avoir un comportement qui est absolument décalé avec le comportement. Hein. Si vous le faites, c'est que vous prétendez respecter, mais qu'en fait vous respectez pas. Hein. Si vous prétendez respecter vos parents et puis que vous comportiez mal avec eux, vous pouvez pas dire que vous les respectez. Vous n'avez pas le sentiment. Hein. Vous faites semblant, vous mentez. Alors, je vais analyser un peu plus ce sentiment hein, de respect. Je dirais que le sentiment de respect, c'est le problème d'un être humain, d'avoir ce sentiment. Hein, et on peut avoir du respect pour autre chose qu'un être humain, mais celui qui a le respect, celui qui éprouve du respect, c'est un être humain. Hein, je ne vais pas dire que mon chien me respecte. Mon chien, il m'obéit ou il ne m'obéit pas. Hein, il se comporte comme il fait le chien, quoi, en quelque sorte. Mais je ne vais pas dire mon chien me respecte. Ou alors, c'est que je commence à être pas bien. Hein, c'est que je commence à avoir une relation avec mon chien qui est un petit peu bizarre et qui est un petit peu pathologique. Hein. De même, il y a des gens qui disent il faut respecter la montagne. Et la montagne respecte les montagnards qui la respectent. Moi, je trouve que c'est des usages qui sont tirés par les cheveux, parce que la montagne, elle est comme elle est. Hein, je veux dire, c'est vrai que respecter la montagne pour le montagnard, ça veut dire ne pas faire des choses absolument impossibles. Savoir comment on s'y prend, savoir comment se comporter, mais on ne va pas dire qu'il y a véritablement du respect. Alors, ça suppose un objet à respecter. Quand je dis un objet, en général, c'est plutôt une personne. Hein. Et cet objet est à respecter pour des raisons. C'est-à-dire, il a une valeur, il a un mérite. Et donc, ça veut dire aussi, quand je respecte, que je laisse un peu de côté mon égoïsme. Je pense plus que, j'arrête de penser qu'à moi. Je pense à l'objet. À l'objet que je respecte, à la personne que je respecte, je ne pense plus à moi d'abord, en quelque sorte. Vous voyez, le prototype du comportement respectueux, c'est par exemple, c'est de s'effacer devant quelqu'un. Hein, vous avez à passer une porte, vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est handicapé, qui passe. Le propre du respect, c'est de s'effacer devant. C'est de ne pas dire, bah, écoutez, moi je suis pressé, hein, vous me laissez passer, on n'en parle plus. Donc le respect implique qu'on laisse de côté son égoïsme et on se soumet à l'objet. On va s'adapter à la personne, on va faire attention à elle, on va avoir du soin pour elle, on va arrêter de penser à soi d'abord. Hein. Et puis, mais en même temps, je dirais que ce n'est pas uniquement passif, l'attitude du respect. Parce que quand je me mets à respecter quelque chose, je pense en général que je le fais à bon escient. Alors il y a des cas où effectivement, ensuite, je découvrirais qu'on m'a trompé, que la personne que je respectais ne le méritait pas. Ça, c'est une autre affaire, on en parlera peut-être au moment des questions. Mais en général, j'ajoute à mon respect une sorte de jugement, c'est-à-dire j'ai du respect et je pense que c'est pour telle et telle raison, c'est à bon escient. Donc c'est quelqu'un qui vous dirait « je respecte une personne, mais je ne sais pas pourquoi », à mon avis, il saurait pas qu'il n'aurait pas vraiment de respect, il saurait pas vraiment de quoi il parle. Donc c'est là ce que je vous appelle ces petites subtilités de langage auxquelles il faut faire attention. C'est-à-dire que il y a des phrases que le philosophe, quand il réfléchit, peut prononcer, mais on contrôle dans l'usage. Et quelqu'un qui vous dirait je respecte une telle personne, mais je sais pas pourquoi. On dira c'est un usage du langage qui est un peu bizarre et je suis pas sûr que les gens ordinairement utiliseraient cette expression. Donc je suis pas sûr que la personne qui utilise ce langage sait ce dont il parle. Alors j'énumère encore quelques caractéristiques du respect, mais on va aller. Je vais pas m'attarder quand même trop là-dessus. C'est Comme je vous ai dit, le respect n'est pas entièrement subjectif. Hein. Il faut qu'il y ait des raisons dans l'objet et il faut qu'il y ait quand même quelques arguments. Ensuite, il m'impose des contraintes. Je vous ai mis une expression tout à fait vulgaire en deuxième alinéa. Le respect m'oblige à suivre des règles du respect. Et donc, je ne peux pas dire, bon, je respecte une femme, mais c'est une salope. Enfin, ce n'est pas possible. Hein, je veux dire, vous voyez, je ne peux pas utiliser ce type. Si je respecte, il faut que le comportement... Mais là, vous voyez, attention. Non, je sais que ça vous fait rire, mais essayez de réfléchir un petit peu. C'est pas, quand je dis... C'est le comportement verbal. C'est le comportement verbal, là, dont je parle. Hein, parce que parler, c'est aussi un comportement. Si je dis j'ai du respect pour une personne, je ne peux pas en parler mal aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que dans mon langage, il y ait aussi un peu de la délicatesse que je ressens dans mon sentiment. Et ça, je le dis parce que je crois qu'aujourd'hui, il est assez souvent le cas que vous éprouvez quelque chose, mais l'usage du langage peut être extrêmement brutal en même temps. Pensez-y, pensez à ce décalage. Vous ne pouvez pas dire à la fois, je respecte quelqu'un, mais vraiment, il est totalement nul, idiot, c'est un bon à rien, etc. Non, ça veut dire que vous êtes obligé d'adapter un petit peu votre langage à votre respect. Ensuite, une chose très importante, c'est que le respect ne vaut pas que pour moi. C'est-à-dire que, normalement, quand vous respectez quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez ce respect. Ce n'est pas juste un truc qui vous passe par la tête à vous. Vous pouvez donner des raisons. Alors, elles convaincront ou elles ne convaincront pas votre interlocuteur, peu importe. Mais vous lui aurez donné des raisons, c'est-à-dire que vous présupposez qu'il est... Je donne un exemple, parce qu'il est très important, c'est sur le respect que quelqu'un de religieux, quelqu'un qui est croyant, peut avoir pour sa religion. Bon, moi, je ne suis pas croyant. Donc, la personne qui a du respect pour sa religion, par exemple, elle n'arrivera pas à me convaincre moi d'avoir le même respect qu'elle. Mais en revanche, ce qu'elle pourra me faire comprendre, c'est pourquoi elle a ce respect-là. Et ça, je pourrais le comprendre. C'est-à-dire, je pourrais comprendre au moins les raisons pour lesquelles elle a du respect sans forcément les partager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on doit pouvoir expliquer les raisons, même si ça ne convainc pas la personne en face. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même une attitude intellectuelle avec une certaine solidité. Et puis, dernière chose qui est tout en bas, mais qui est extraordinairement importante, parce que là, on va déboucher sur des choses beaucoup plus... on va sortir de ces analyses psychologiques et on va tomber sur des questions de vraie philosophie, et ça aura beaucoup d'importance. C'est que le respect a une certaine universalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous respectez une chose pour certaines raisons, parce qu'elle a certaines propriétés, eh bien, normalement, les choses ou les personnes qui ont la même propriété, elles devront être respectées aussi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, si je respecte, ma mère parce qu'elle m'a donné la vie, normalement, je dirais que toute femme qui a donné la vie, si c'est la raison pour laquelle je respecte ma mère, hein, si je la respecte parce qu'elle m'a donné la vie, parce qu'elle a donné la vie, toute femme qui est une mère devra avoir mon respect. C'est ça que j'appelle l'universalité. Sauf que, dans certains cas, l'autre objet qui a cette propriété peut avoir des propriétés qui sont assez contradictoires. Et donc, je prenais cet exemple, c'est je respecte toutes les mères, par exemple, comme vous tous ici, mais qu'est-ce que je fais, par exemple, dans le cas d'une mère maltraitante? Vous voyez, c'est une mère, donc elle a droit à mon respect. Mais en même temps, elle a maltraité son enfant. Hein, dans le cas d'une maltraitance d'enfant grave. Et ça existe aussi, ça. Donc, qu'est-ce que je fais, hein? Je veux dire, en tant que mère, elle a droit à mon respect, puisque j'ai du respect pour toutes les mères. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que ça pose problème. Alors, je ne dis pas qu'on n'aura pas de respect pour elle, mais ça, c'est ça qui pose problème. Bon, alors, comme je vous avais... Je termine, là, sur le passage en revue. Du point de vue du comportement, quand on a le sentiment de respect, comment on fait? On agit de manière appropriée, on garde ses distances, on fait attention, on ne traite pas n'importe comment, on protège, on prend soin, on entretient, on soigne. Hein. Ça vaut pour les personnes comme pour un certain nombre d'objets, hein, comme pour prendre soin d'un jardin, je veux dire respecter la nature, prendre soin de plantes, on soigne, on entretient. Et alors, je vous cite une très belle phrase. Si vous ne la comprenez pas, ça n'a aucune importance, mais je voudrais qu'elle reste dans votre tête, c'est que le grand romancier tchèque Kafka, sur son livre de mort, c'est l'auteur du fameux livre Le Procès, par exemple, sur son lit de mort, c'est une phrase, vous voyez, bon, l'a-t-il prononcé, l'a-t-il pas prononcé, j'en sais rien, il a eu cette phrase, sa dernière phrase, ça a été « J'aimerais tant m'occuper des pivoines, vous voyez ces grosses fleurs très fragiles que sont les pivoines, j'aimerais tant m'occuper des pivoines, elles sont si fragiles. » Et c'est ce sens-là dont je vous parle quand je dis respecter, c'est prendre soin de. Hein, il dit, sa dernière phrase, c'est « J'aimerais m'occuper des pivoines, elles sont si fragiles. » Bon, si ça vous... gardez ça pour, dans votre tête pour un peu plus tard. Alors, maintenant, on va aller sur... On va bientôt... vais parler encore pas plus de 10 minutes. Hein, donc, on est maintenant sur la voie descendante et on est sur les grandes questions philosophiques. Et on va quitter ces analyses un peu subtiles, mais qui sont très importantes à faire. Alors, d'abord, pourquoi a-t-on du respect ? Ben là, il faut faire une analyse. On fait une analyse, on fait une énumération. On se demande, entre nous, pourquoi avons-nous du respect ? Alors, c'est sûr qu'on a du respect pour les œuvres d'art. Hein, attention, il ne faut pas s'accrocher. Peu importe les raisons, mais on a du respect pour les œuvres d'art, pour les monuments, pour les souvenirs, les monuments aux morts. Les cimetières, normalement, on devrait avoir du respect pour l'espace public. L'espace public, c'est-à-dire l'espace dehors, celui qui est à tout le monde, justement, parce que justement, il n'est pas qu'à moi, donc il faudrait quand même avoir de l'attention pour lui. On a de l'attention aussi, aujourd'hui, c'est un mot d'ordre quasiment, c'est presque un slogan pour la nature. C'est-à-dire au lieu de jeter ses ordures n'importe où, au lieu d'avoir des terrains vagues qui sont pleins d'immondices, on essaye de respecter la nature, on essaye d'en prendre soin, on essaye de porter les déchets à la décharge, on essaye de pas mettre n'importe quoi n'importe où. Bien sûr, on a du respect pour les personnes, c'est la chose peut-être l'élément le plus important. Et puis, il y a le problème du respect de soi, le respect pour nous-mêmes comme personnes. Alors, ce que j'ajoute en bas, parce qu'un philosophe doit toujours, quand il dit quelque chose, noter les exceptions et puis noter là où ça fait problème. Il y a beaucoup de gens qui diront qu'ils ne sont pas d'accord sur tout ça. Hein. Et notamment, certains philosophes diront qu'il n'y a que les personnes qui sont vraiment respectables. Seules les personnes humaines sont respectables. Mais on ne peut pas parler de respecter la nature, on ne peut pas parler de respecter les monuments, on ne peut pas parler de respecter... mais les personnes, oui, ça c'est fondamental. Ça c'est la position des philosophes qui sont dans la lignée d'Emmanuel Kant, dont je vous ai parlé. Pour Kant, le respect, il est dû fondamentalement aux personnes. Et donc à nous-mêmes en tant que personnes aussi. Hein, le respect de soi est aussi fondamental. Respect d'autrui, respect de soi. Mais du coup, il n'y a pas de respect pour les animaux à proprement parler. Il n'y a pas de respect pour la nature à proprement parler. Donc je vous signale que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Mais qu'aujourd'hui, disons que l'accord serait plutôt assez général sur la liste. C'est-à-dire que les gens qui disent « on ne respecte que les personnes », sont pas les plus nombreux. C'est pas une question de sondage d'opinion, hein, mais disons que les conceptions ont légèrement changé et que si vous voulez, à l'époque où vivait Kant, à la fin du XVIIIe siècle, la nature elle était sauvage, donc elle faisait plus peur qu'autre chose et on se posait pas tellement la question d'avoir à la respecter, hein, parce que il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas tellement de déchets, les gens n'avaient rien à jeter, il n'y avait pas encore d'industrie. Donc l'idée de respecter la nature, ça ne venait pas tellement à l'idée. Il commençait à y avoir de l'art des jardins, mais pas beaucoup. Hein. Tandis que pour nous, aujourd'hui, dans un monde où il y a 6 milliards d'êtres humains, où il y a de la pollution, où il y a du développement économique, le respect de la nature devient un vrai problème. Alors... Bon, ça, je le saute parce que c'est pas la peine de s'attarder trop. Alors, je vais donc parler du respect des personnes, du respect de soi, et puis ensuite du respect de la nature, et on terminera sur une grosse question avec un point d'interrogation qui ouvrira les questions. Alors, le respect pour les personnes. Chez les philosophes, on a deux thèses qui sont en présence. L'une, c'est celle de Kant, je vous la dis de manière simplifiée, c'est que le respect est dû à toute personne. À toute personne, simplement parce qu'elle est un être humain, c'est-à-dire un être rationnel et libre. Rationnel et libre. Toute personne, par principe, est un être rationnel et libre, et donc toute personne a droit au respect. C'est la définition même. Une personne, c'est à respecter. Et ce que Kant dit... vous l'avez sûrement entendu à un moment ou à un autre, c'est qu'il faut toujours traiter les personnes comme des fins en soi. C'est-à-dire, c'est elles-mêmes qui ont... On ne peut pas les utiliser comme des moyens. On ne peut pas les manipuler, on ne peut pas les instrumenter, on ne peut pas les utiliser comme des moyens, il faut les traiter comme des fins. C'est-à-dire respecter leur liberté, mais en contrepartie, elles doivent respecter ma liberté. Mais donc ça, c'est la thèse, disons, maximale sur les personnes. Les personnes, toute personne, quelle qu'elle soit, hein, même si elle a commis des crimes, ça n'empêchera pas de la châtier, même si elle a perdu la raison, en tant qu'elle est un être humain, ou elle a été un être humain, elle doit être respectée. Et puis, vous avez une autre école philosophique disant, en fait, il faut respecter les gens en fonction de leur mérite, de leur valeur, et donc là, il y aura des degrés. On respectera plus ou moins. Il y a des gens qui sont plus ou moins respectables, il y a des gens qui ne sont pas respectables, et une des questions qui pourrait se poser, c'est de savoir s'il y a des gens qui sont pas respectable du tout. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est une question qui est très grave. Hein. Alors, quant à une phrase qui est très connue, c'est « Agis de telle manière que tu traites l'humanité en toi ou en autrui, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. » Donc, je respecte, je suis la personne A, je respecte une personne B, B me respecte si nous sommes des personnes. Et Si une A ou B est une personne, forcément, on lui doit le respect. Les autres, l'autre thèse, de l'autre côté, consistera à dire on respecte si les gens sont respectables. C'est-à-dire, selon leur moralité, selon le respect qu'elles montrent à autrui, hein, selon le souci qu'elles ont d'autrui, selon leur rationalité, hein, et quelquefois, je peux respecter des gens qui ne me respectent pas, et je peux ne pas respecter des gens qui ne me respectent pas, je peux ne pas respecter des gens qui me respectent. Tous les cas de figure sont possibles. Alors, vous voyez, ces deux thèses qui sont extrêmement difficiles à concilier. Moi, je vois une conciliation possible, si vous voulez, c'est de dire qu'on doit respecter tous les êtres humains comme on respecte l'humanité en général, et puis que parmi l'humanité, eh bien, il y en a qui ont droit à plus de respect d'une autre nature que d'autres. Maintenant, la question que je vous ai mise en bas, qui revient au même que celle précédemment, et qui est très embêtante, c'est est-ce qu'il y a des gens qui, par leurs mauvaises actions, détruisent leur humanité? Ça, c'est une question gravissime. Est-ce qu'il y a des gens... Par exemple, un affreux tortionnaire. Prenons un cas, parce que récemment, en Argentine, vous savez qu'il y a eu une dictature militaire il y a 20 ans, et ensuite, la démocratie a été rétablie, et puis on a plus ou moins poursuivi les militaires qui avaient beaucoup torturé, beaucoup tué de gens. Il y a quelques jours, s'est terminé le procès d'un prêtre catholique qui a participé aux tortures. Il a été condamné à la prison à vie. Est-ce qu'on considère que, par exemple, quelqu'un qui a été un affreux tortionnaire a abdiqué son humanité complètement? Est-ce qu'il est, donc, d'une certaine manière, qu'il peut être condamné à mort? Parce que condamné à mort, ça veut dire qu'on ne respectera même plus son humanité, on l'exclura de l'humanité. Ou si on le condamne à la prison à perpétuité, ça revient un petit peu au même, à une vraie perpétuité. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui, par leurs actions, vont détruire leur humanité? Je le dis, la question, elle est ouverte. Hein. Elle est très ouverte, parce que un vrai philosophe kantien vous dira non, jamais. Même la personne qui a commis des choses les pires, elle sera châtiée, mais elle ne peut pas être, elle a toujours droit à notre respect. Les autres diront, il y a un point où on ne peut plus. Il y a un point où on ne peut plus respecter les gens qui ne respectent pas l'humanité et qui ont tué l'humanité en eux. C'est des choses qui sont très importantes. Ce n'est pas juste des questions de philosophes, si vous voulez, pour la salle de cours, parce que c'est des questions qui se posent dans tous les conflits politiques graves, dans toutes les guerres civiles. Dans les guerres civiles, vous avez des gens qui commettent des choses absolument atroces. Et est-ce que, en faisant ça, ils conservent le droit à notre respect? Est-ce qu'ils conservent le droit d'être comptés parmi l'humanité? Au Rwanda, hein, actuellement au Darfour, en Tchétchénie, etc. Est-ce que les gens qui se conduisent véritablement comme des bourreaux gardent leur humanité ou pas? Je dis, là, c'est une question qui demande à être réfléchie. Alors, chose importante, et je vais bientôt terminer, le respect de soi. Ben, qu'est-ce que c'est le respect de soi? Ben, une personne qui se respecte ne se traite pas comme un objet. Elle ne se traite pas comme un objet. Donc, alors qu'est-ce qu'elle fait quand elle ne se respecte pas? Elle s'utilise comme moyen. Je pense qu'une personne qui vend son corps, par exemple, c'est une explication de la prostitution qu'on donne quelquefois, une personne qui vend son corps s'utilise comme moyen, hein, peu importe les raisons pour lesquelles elle le fait, mais elle s'utilise comme moyen. Une personne qui n'a pas de dignité, qui n'a pas le souci de sa dignité, par exemple qui fait de l'exhibitionnisme, elle n'a pas de souci de soi. Une personne qui se laisse aller complètement par rapport à son travail, par rapport à la drogue, par rapport à la sexualité, une personne qui abandonne sa volonté, on peut dire aussi qu'elle ne se respecte pas. Alors, une chose qui est très importante, et là, ça va probablement beaucoup, c'est là où on va revenir au thème du respect aujourd'hui, c'est que il y a un lien très fort entre respect de soi et le respect que autrui a pour moi. Ça, tous les philosophes le reconnaissent. C'est-à-dire que pour que je puisse me traiter comme une personne, pour que j'aie du respect pour moi, il faut que les autres en aient aussi pour moi. Hein? Il faut qu'il y ait une réciprocité. Celui qui est méprisé, il risque de se mépriser et il risque aussi de mépriser autrui. Hein? Il y a un lien entre l'estime de soi et l'estime de l'autre. Il y a un lien aussi entre la vulnérabilité et la demande de reconnaissance. On dit qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont beaucoup de demandes de reconnaissance, beaucoup de demandes de respect, mais c'est probablement parce que dans la vie sociale, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance et d'estime qui nous est donnée par autrui. Chacun s'occupant que de ses affaires, d'une certaine manière, il y a un manque de reconnaissance, et du coup, il y a une demande assez forte, forcenée même quelquefois, de respect et de reconnaissance. Et une chose qui est très importante, mais ça nous mène dans une autre direction qui est passionnante, mais je peux vous en parler dans les questions, mais pas ici, c'est que le respect de soi n'a rien d'inné. Hein? C'est quelque chose, c'est un sentiment auquel on accède, et notamment dans l'enfance, à travers la reconnaissance d'autrui, à travers la reconnaissance des parents, à travers la reconnaissance des camarades, à travers les autres individus. Et les individus se respectent d'autant plus qu'on a construit autour d'eux cette relation d'estime. Et beaucoup d'enfants ou d'adolescents aujourd'hui qui sont victimes de graves carences affectives et de carences éducatives aussi, ont une très faible estime d'eux-mêmes, ils se sentent rejetés d'une certaine manière, et en même temps une très grande agressivité, parce qu'ils renvoient, hein, en quelque sorte, ce rejet sur les autres, et c'est une forme de vulnérabilité importante. Bon, je laisse de côté la nature, éventuellement, on en parlera pour les questions. Le dernier point sur lequel je voulais vous parler, parce que je suis à 42 minutes, c'est trop long, c'est le respect envers Dieu. Hein? Est-ce que c'est une question ouverte, mais elle se pose. Est-ce que c'est le bon terme? Moi, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas que Dieu se respecte. Dieu, on croit en lui, on le craint, on suit sa loi, mais je ne suis pas sûr qu'on le respecte. Le respect, c'est plutôt... Bon, maintenant, la question qui est derrière, c'est quelle est l'attitude correcte face à Dieu? Quelle est l'attitude face à la croyance? Quelle est l'attitude face aux croyants? Hein? Quelle est l'attitude face à la religion? Parce que la religion, c'est quand même quelque chose qui est lié au respect. Mais je pense que là, la question, elle est ouverte. Je vous la signalais seulement parce qu'elle se pose dans cet ensemble. Alors, je m'arrête là et je vous ouvre le temps des questions.